Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 12 décembre 2019. Encore une journée passée dans la salle d'attente à lire des vieux magazines, mais cette fois, on n'attendait pas de news du trade deal. Enfin, si, on espérait toujours que les Américains allaient botter en touche pour repousser la mise en place des nouveaux 15% sur les 160 milliards de biens d'importation chinois, mais on attendait quand même de voir ce que la Fed allait faire hier soir, même si on était à peu près certain que la réponse serait rien. Et pour une fois, on ne s'est pas planté, la Fed n'a effectivement rien fait et a écouté le discours de Powell, le post-immobilisme, ça risque de durer durant toute l'année 2020. La Banque centrale américaine a donc voté à l'unanimité le fait de laisser les taux à 1,75 et a déclaré que sans indication claire, solide et durable, comme quoi l'inflation est en train de monter, ils ne toucheront plus les taux pendant les 12 prochains mois au moins. Ce qui ne veut absolument rien dire, puisqu'au moindre chiffre économique un tant soit peu inflationniste, on réveillera les types de la Fed et ils referont parler d'eux. Enfin, peu importe, hier la Fed n'a rien fait et la Fed a plus ou moins annoncé qu'en 2020, ils partaient tous en année sabbatique et qu'il laisserait la place à tout ce qui nous attend ces 12 prochains mois. Il est vrai qu'avec les échéances du trade deal 1.0, 2.0, 3.0, la destitution de Trump, la campagne de Trump et de Bloomberg, la réélection de Trump, le soulagement du marché parce que Trump a été réélu et la crise du repo qui devrait nous occuper encore et encore l'an prochain, autant ne pas avoir en plus à s'occuper de la Fed. Donc maintenant, la Fed est derrière nous et a priori pour un moment, on peut donc en théorie passer à autre chose comme le trade deal ou le Brexit. Le trade deal, on n'en sait pas plus, mais il reste 3 jours aux Américains pour repousser la mise en place des derniers tarifs douaniers en date pour soulager les investisseurs et les laisser espérer que ce foutu deal va quand même se signer avant 2020, ce qui rendrait au moins les 10 derniers jours de trading de l'année peut-être un peu plus intéressant que ce que l'on vit actuellement. Et puis de l'autre côté, on a les élections du royaume d'Élisabeth qui laissent entrevoir une courte victoire de Boris, ce qui, selon les experts, va compliquer la mise en application du Brexit. Alors, j'en sais rien, et pour être complètement transparent avec vous, je m'en tape royalement du Brexit. La seule chose que je sais, c'est que ça devient parfaitement clownesque, que la moitié des Anglais ne savent même plus ce qu'ils ont voté à l'époque, et que quand on voit l'état de l'Europe et l'unité dans laquelle ils sont, ça devrait pourtant être évident qu'il faut sortir parce que ça ne marchera jamais ce truc. Ah oui, au passage, les marchés n'ont rien fait hier, ils étaient un peu trop occupés à attendre la Fed, attendre le trade deal, attendre le Brexit et attendre la fin de l'année. Je ne sais pas ce qu'on va faire et de quoi on va parler lorsque tout sera derrière nous, mais j'avoue, j'ai peur. Ce matin, quand on lit la presse, on apprend que l'Asie est en hausse après les commentaires encourageants de la Fed. Bon. Ok, la Fed a dit que l'économie allait bien, ils n'ont pas non plus dit qu'ils ne savaient pas comment freiner l'économie tellement ça cartonnait et qu'ils avaient peur que tout le monde s'emballe et que tout s'emballe et que Ferrari ne pourrait jamais livrer assez de véhicules aux USA pour satisfaire la demande de la classe moyenne. Mais bon, apparemment, la traduction a dû être un peu plus enthousiaste pour les médias du côté asiatique. En tous les cas, ce matin, le Japon explose d'enthousiasme à coup de 0,29%, pendant que la Chine s'emballe de bonheur en baissant de 0,15%. Et finalement, il n'y a qu'Hong Kong qui y croit en bondissant de 1,3%, mais sans que l'on soit vraiment sûr que ce soit uniquement à cause de la Fed. Pendant ce temps, l'or refuse de mourir dans sa tendance baissière et tente un 234e rebond, rebond qui va se la prendre en pleine tronche dès que les USA annonceront qu'ils repoussent la mise en place des tarifs douaniers. Mais en attendant, l'once d'or vaut 1 479 $. Le pétrole s'entraîne pour entrer au musée Grévin en restant parfaitement immobile à 58,85. Dans les nouvelles du jour, on dissèque les commentaires de la Fed, on analyse les derniers sondages sur le Brexit, on se félicite ou pas que Greta soit nommée personne de l'année dans le Times. De toute façon, qui lit le Times? Et puis, Hitler a aussi été personne de l'année. Après tout, autrement, on parle aussi du Crédit Suisse qui revoit ses objectifs à la baisse. Peut-être que les coûts de détectives privés ont pesé sur les dépenses de la très grande banque suisse. Pendant ce temps, Macron a envoyé son premier ministre au front pour annoncer leur projet sur les retraites, histoire de ne pas prendre les coups personnellement, et annoncer aussi que pas grand-chose ne changeait. Enfin, pas besoin de se repasser le discours en boucle sur YouTube pour tout analyser, il suffit d'écouter les réactions des syndicats qui ne sont toujours pas contents, fâchés, etc., etc. Et hop, du coup, les Français restent piétons ou cyclistes. Et du même coup, pas sûr que le CEVA, c'est plus fort que toi, puisse être inauguré, puisque les cheminots qui ont été engagés pour ça ont déjà déposé un préavis de grève. Un préavis qui n'a rien à voir avec les retraites, mais juste parce qu'ils veulent une prime de cherté. Parce que vivre trop près de la Suisse, c'est trop dur et c'est trop cher. Ceci dit, je trouve que la France est un pays fantastique. C'est quand même le seul endroit où tu trouves un job, tu te fais engager, mais avant de commencer, tu te mets déjà en grève parce que t'es pas assez payé. J'ai jamais essayé, mais si un jour je suis engagé quelque part, je vais tester. Bon, en même temps, personne ne veut m'engager, alors je peux me mettre en grève tout seul. On notera aussi l'excitation qui tourne autour d'Aramco, qui est devenue officiellement la plus grosse capitalisation boursière du monde. Elle frise les 2 trillions de market cap et a pris 10% lors de sa première séance de trading. Les médias et les experts se posent tout de même des questions quant à son indépendance. Pas sûr qu'il faille se poser des questions, ça paraît plutôt évident que non. Rien que dans la procédure de souscription, les encouragements insistants auprès de certains institutionnels pour les motiver à acheter étaient clairement une démonstration de force. Autant dire que l'indépendance du management fonctionnera jusqu'à qu'il y ait un problème. Ensuite, les managers partiront en voyage d'affaires à l'ambassade d'Istanbul. Et on trouvera quelqu'un d'autre. Il faut également retenir que Telefonica en Allemagne a choisi Huawei pour les aider à construire leur réseau 5G. Les Américains apprécieront le coup bas. Et puis le Wall Street Journal publie un long article sur l'utilisation des dons à l'Église catholique. Alors, ne pas rire, hein. En gros, ceux qui croient encore que l'Église est charitable pourraient tomber de haut. 10% de la somme totale des dons vont pour aider les pauvres. 55% va pour éponger le déficit du Vatican. Et on ne sait pas trop ce qui se passe avec le reste, probablement pour les frais de justice, frais d'avocat en tout genre. En tous les cas, un article à mourir de rire et qui démontre encore une fois que la pourriture se trouve un peu partout et partout un peu. Une fois n'est pas coutume, vu que Trump n'est pas encore destitué, que le trade deal n'est pas signé et qu'il n'y a pas franchement grand-chose à dire, je voudrais brièvement aborder un sujet concret, le compliance. Il m'est arrivé un truc récemment, une anecdote que je voudrais partager avec vous, quelque chose qui démontre bien la connerie totale dans laquelle nous sommes en train de plonger, dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer voluptueusement. Voici donc la trame de l'histoire. Cela commence par un simple ordre de bourse qui est passé dans une banque de la place, un ordre d'acheter des actions de la société américaine General Dynamics. Pour ceux qui connaissent mal la société, c'est elle qui a fabriqué le F-16 et le F-111, mais aussi le char Abrams et les sous-marins d'attaque Sea Wolf, entre autres. Pour faire simple et soyons clairs, c'est une société d'armement qui fait d'ailleurs partie des membres du Dow Jones, du S&P 500 et de bien d'autres indices boursiers. D'ailleurs, Vanguard est un des plus gros actionnaires de General Dynamics, production d'ETF oblige. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la banque chez qui j'ai passé l'ordre m'a refusé l'exécution parce que, je cite, « notre compliance refuse de traiter General Dynamics parce qu'ils font de l'armement ». Une fois que je me suis relevé après être tombé de ma chaise, la première chose qui me vint à l'esprit fut de demander si c'était le cas pour toutes les sociétés qui font de l'armement, auquel cas ça ferait quand même du monde, dont pas mal de monde qui sont membres du Dow Jones, justement. Boeing, par exemple. C'est là qu'on me répondit que Boeing et Airbus ne posaient pas de problème parce qu'ils font des avions civils. Ah bon ? Alors, je suggère donc que l'on approfondisse un peu le sujet, pas juste pour information, le FA-18 qui équipe la patrouille suisse n'est pas un avion civil. Il a été construit par McDonnell Douglas. Et, aux surprises, McDonnell Douglas a été racheté par Boeing il y a plus de 20 ans. Je ne vais même pas aborder le côté non civil d'Airbus. Ça serait faire insulte à votre intelligence. Tapez EC-665 Tigre sur Wikipédia. Et je pense que l'appareil en question qui apparaîtra sur vos écrans ne vaporise pas uniquement du Chanel numéro 5. Mais l'ubuesque de la situation ne s'arrête pas là. Vu que je ne pouvais pas acheter General Dynamics, j'ai demandé si je pouvais passer des ordres sur Lockheed Martin et Raytheon. Et là, aux surprises, aucun problème. Alors, c'est vrai que Lockheed Martin qui font des avions et Raytheon qui font des missiles, alors ils ont des avions et des missiles qui tuent, mais moins méchamment. En gros, sans vous faire le menu de la production de Lockheed ou de Raytheon, c'est un peu comme si je voulais acheter du Pepsi et qu'on me disait non, parce qu'ils font des boissons gazeuses. Mais par contre, vous pouvez acheter du Coca-Cola. Tout ça pour vous dire que je trouve très bien que l'on essaye de réglementer, d'être plus blanc que blanc. Mais de là à interdire de manière parfaitement illogique, on va se retrouver à ne plus pouvoir traiter que des boîtes qui font des voitures électriques à ce rythme-là. Et encore, juste le temps que l'on se rende compte des problèmes que ça peut amener. Ou alors, autrement, on peut tout interdire et se contenter de ne pouvoir acheter que la nouvelle émission de la Confédération suisse, 0% à 20 ans. C'est hyper sexy comme investissement et pendant ce temps, à l'étranger, on nous bouffe le business parce qu'on est plus flexible. Alors moi, je dis, le compliance, c'est bien, mais des fois, ça serait pas mal de réfléchir un tout petit peu avant, mais pas longtemps, hein, juste 5 minutes, et je pense que ça devrait amplement suffire. Pour les publications du jour, on aura droit à plein de CPI en Europe, les Jobless Claims aux States, la décision de la BNS qui est le suspense, et puis en Europe, nous aurons la BCE qui annoncera qu'elle ne peut rien faire, et Lagarde qui prononcera son premier discours. Pour le moment, les futurs ne font rien, et nous, on se retrouve demain. Moi, je vais voir si je peux acheter des actions qui vendent du tabac avant que ça soit interdit. Très bonne journée à tous, et à demain.